Sébastien Lemonnier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes gérant chez Mansartis. On va parler avec vous de stratégie sur les marchés et de perspectives. Comment vous abordez cette fin d'année si on dresse un premier bilan? Ça a été facile cette année ou il y a eu quand même pas mal de mauvaises surprises?
Non, ça a été très compliqué. Ça a été compliqué pour beaucoup de gérants. Il y a peu de gérants qui arrivaient à surperformer les marchés européens. C'est aussi compliqué parce qu'il y a peu de styles d'investissement qui fonctionnent, ni la value, ni la croissance. Et quand on regarde dans le détail, finalement, c'est quelques secteurs qui ont tiré plutôt les marchés à la hausse, ou en tout cas qui les ont empêchés de baisser. On a eu des événements géopolitiques avec l'Ukraine et la Russie qui sont venus aussi déranger. Des mauvaises nouvelles macroéconomiques, on pensait peut-être qu'on avait un peu vu le bout et finalement, il y a encore un peu de révision, notamment en France, notamment en Allemagne. Mais malgré tout, on reste chez Mansartis à la fois optimiste sur les marchés actions dans leur globalité, pas uniquement parce que c'est une classe d'actifs attractifs par défaut. On estime qu'aux États-Unis, il y a encore beaucoup de croissance et que les marchés sont pas si chers que ça, notamment si on retraite du cash qui est généré par les sociétés. En Asie ou au Japon, on a plutôt des choses qui nous poussent justement là aussi à être investis. Et puis sur l'Europe, zone que je gère, on est aussi relativement confiant puisque même si on a des déceptions sur les chiffres d'affaires des sociétés, ou en tout cas pas de vrai relais de croissance comme ça peut être le cas par exemple aux États-Unis, on a des marges de sociétés qui se tiennent plutôt bien. On a des générations de free cash flow qui sont aussi très solides et qui, à mon avis, justement, servent d'amortisseurs par rapport à tous ces risques macroéconomiques.
C'est-à-dire qu'il y a le fait, par exemple, qu'il n'y ait pas de croissance, ou en tout cas des grosses inquiétudes sur la croissance, ça n'empêche pas certaines entreprises européennes de délivrer de la performance.
Alors, ça peut être plus challenging sur certaines industries, notamment tout ce qui est plus cyclique ou la construction. Par contre, quand on regarde les valorisations, le marché n'a pas attendu finalement ces mauvais chiffres macroéconomiques. Moi, dans les grosses convictions que j'ai dans le portefeuille, j'ai du Lafarge, j'ai du Vicat, j'ai du Imerys. Et c'est des titres où, si je prends l'exemple d'Imerys ou de Vicat, on anticipe déjà un début de récession finalement en Europe. Donc, on n'y est pas encore. C'est les valorisations qui me disent ça. Donc, est-ce qu'il y a un potentiel à la hausse? Peut-être qu'à court terme, ça peut être un peu challenging, mais en tout cas, à court terme, on a aussi peut-être un potentiel de baisse qui est relativement limité et ce qui du coup nous encourage, parce que de l'autre côté, on a Monsieur Draghi qui est là aussi pour nous protéger. Il faut avoir en tête que son mandat, à la différence de la BCE, c'est l'inflation ou la déflation, c'est pas la croissance comme aux États-Unis. Et donc, si on a de la déflation, ce que tout le monde est un peu, à mon sens, en train de surjouer, je dis pas que ça va pas arriver, je dis que c'est un peu déjà anticipé, on a Monsieur Draghi qui est là aussi pour nous protéger. Donc, c'est pour ça que je trouve qu'il y a un bon couple rendement-risque sur les actions européennes.
Du côté justement, alors des secteurs, vous avez évoqué là par exemple un secteur, est-ce que vous raisonnez vous par valeur plutôt que par secteur?
Alors, on raisonne par valeur, puisqu'on fait vraiment du stock picking. Après, on fait bien sûr attention en termes de risque sur le portefeuille. En revanche, ce qui est aujourd'hui évident, c'est qu'il y a des vrais écarts de valorisation. Si je prends des sociétés dites défensives, moi je trouve qu'elles se payent un petit peu trop cher aujourd'hui. Quand je regarde des acteurs comme Unilever, comme Nestlé, qui sont certes de bonne qualité, mais qui se payent plutôt avec 10% de prime, 15% par rapport à leur historique, alors qu'il n'y a pas forcément de croissance. Même dans les pays émergents, c'est ralenti. À contrario, de valeurs cycliques, je vous parlais tout à l'heure de la construction, je regarde aussi attentivement le secteur automobile, un secteur que je trouve assez intéressant parce qu'on a eu à la fois des révisions à la hausse des bénéfices par action des sociétés, alors que même c'est un secteur qui a sous-performé. Donc en fait, dans ma recherche de stock picking, j'ai aujourd'hui ces biais dans ce fonds où je me sens plutôt à l'aise aussi compte tenu de la valorisation. Et c'est quelque chose qui est plutôt en train de fonctionner d'ailleurs ces derniers temps. On a des mouvements de rotation sectorielle qui sont plutôt en faveur justement de cette stratégie qu'on a chez Mansartis sur le fonds Mansartis Europe.
Alors il y a, c'est vrai, des tendances un petit peu historiques. Là, on est en fin d'année, donc il y a ce côté rallye de fin d'année qu'aiment bien les gérants ou les investisseurs. Il y a quand même des risques géopolitiques, il y a quand même un certain nombre d'inquiétudes en ce moment, en tout cas quand on regarde l'actualité. Aujourd'hui, les marchés restent dopés quand même par cette aide des banques centrales.
Alors c'est le cas aux États-Unis, c'est pas forcément encore le cas en Europe. Combien d'investisseurs justement se plaignent comme quoi Draghi ne fait pas assez? Les mouvements de fin d'année, il y en a, c'est toujours très compliqué à anticiper. Chez Mansartis, on a une vision long terme, donc c'est pas parce qu'on s'approche de la fin d'année calendaire que ça change quoi que ce soit. On gère le patrimoine de nos clients sur une approche longue, pour certains sur 10, 20, 30 ans, parce qu'on a des clients très fidèles. Moi, quand j'investis dans une société, je la regarde sur un horizon normalisé, c'est-à-dire sur 3, 5 ans, justement quand les choses se rationalisent, quand les événements exceptionnels, imprévisibles, finissent par disparaître. Et donc moi, j'essaie d'en profiter avec des inefficiences de marché que j'ai pu justement constater pendant l'été, ce qui m'a permis aussi de renforcer via du stock picking pas mal le small et mid cap qui avait été fortement délaissé avec des mouvements de flux importants. Mais finalement, c'est là où on fait en général les meilleures courses pour les investissements des 18-24 prochains mois.
Oui, parce que là, on peut dire qu'il y a eu un double mouvement. Hein. Il y a eu en fin d'année dernière, quasiment à l'époque dont on parle, un mouvement d'achat. Il y a eu le lancement retardé du PEA-PME et il y a eu effectivement pour ces valeurs-là de l'intérêt. Et puis, il y a eu ce que vous avez rappelé après des valeurs qui ont été largement délaissées.
C'est vrai que les small et mid cap, par définition, historiquement, génèrent plus de croissance que les large cap. Elles ont aussi finalement réussi tout leur travail de restructuration. Elles ne sont pas si domestiques que ça. C'est vrai que souvent, on a en tête que c'est des valeurs purement européennes ou franco-françaises sur le marché français. Finalement, c'est des acteurs globaux. Si je regarde un acteur comme Plastic Omnium dans l'automobile, ses clients sont partout dans le monde. Donc, ça a été aussi surjoué parce que malheureusement, il y a toujours des phénomènes de flux. Quand on crée un nouveau produit, comme ça a été le cas en France, ça tire aussi les valorisations vers le haut. Les investisseurs américains qui étaient rentrés en début d'année avaient peut-être aussi un peu excessif en disant tiens ce qui va se passer, enfin, ce qui s'est passé aux États-Unis va se passer en Europe. Et puis quand tout le monde panique comme ça a été le cas pendant l'été, on a là des fortes baisses, donc il faut réussir à faire le dos rond sur éventuellement les valeurs qu'on a en portefeuille, et sur celles qu'on n'a pas mais qui sont de bonne qualité, c'est des très bonnes opportunités. C'est ce que j'ai fait sur Plastic Omnium, sur une société italienne qui s'appelle IMA, qui est un leader incontournable sur les machines qui produisent les sachets de thé, qui produisent aussi les packaging pour l'industrie pharmaceutique. Donc deux business qui sont finalement très défensifs, mais ça n'a pas empêché le titre de baisser de 40%. Donc quand on investit en long terme, c'est plutôt une bonne opportunité.
De votre point de vue, il restera des opportunités d'ici la fin de l'année pour justement avec ce type de valeurs qui peut-être peuvent être à un moment donné décotées parce que délaissées par les investisseurs.
Moi, je continue à en trouver. Alors, c'est sûr que j'ai déjà des convictions fortes dans le fond. Donc, si jamais les marchés venaient à rebaisser, notamment sur des acteurs comme Vika, dont je vous parlais, comme Imerys, pourquoi pas aussi Volkswagen, j'en profiterai pour renforcer. Et puis, on continue de trouver des nouvelles idées. Pareil, plutôt sur des valeurs cycliques. Donc, il faut aussi faire attention en termes de construction de portefeuille. Ou alors sur des sociétés qui sont un peu en changement de statut. On a beaucoup travaillé ces derniers temps sur Veolia Environnement, où justement, on pense qu'il se passe beaucoup de choses. Après la partie restructuration, la boîte est sauvée. Et je pense que 2015 sera l'année de Veolia en termes à la fois de nouvelles croissances sur des nouveaux marchés, mais surtout en termes de free cash flow, puisqu'on a une perception des investisseurs, alors peut-être moins maintenant en France, mais en tout cas aux États-Unis, c'est encore vraiment le cas. C'est une société qui est incapable de générer des free cash flow. Et je pense qu'à la fois, elle va être capable de le faire et elle va sans doute pouvoir doubler ses retours sur capitaux employés à horizon 3-4 ans. Donc, c'est une société sur laquelle on est rentré récemment, où on est très confiant.
Voilà, typiquement, une société à regarder. Merci d'avoir fait le point avec nous, Sébastien Lemonnier.
Merci.